Vous écoutez On lit pour vous.
Norda, le roi de la montagne est montréalais. Un texte d'Alain McKenna, paru le 6 avril 2026 dans la presse. Salomon, Oka, essayez plutôt Norda. La marque montréalaise de chaussures de course a rapidement gravi les échelons depuis sa création en 2021 pour devenir un incontournable sur les sentiers partout dans le monde, à commencer par ceux du Mont-Royal et des Montérégiennes. Comme bien des succès québécois, l'essor des chaussures Norda est relativement confidentiel au Québec. Mais l'entreprise, dont le bureau est situé dans l'ouest de Montréal, est parvenue à atteindre un chiffre d'affaires annuel qui flirte avec les 50 millions de dollars. En 5 ans, en termes de course, on parle davantage d'un sprint que d'un marathon. Et pourtant, quand Nick et Willa Martiri ont eu l'idée de fabriquer des chaussures dès 2020, ils voulaient surtout créer quelque chose de durable sur les sentiers, plus que dans les livres comptables. Dès les premières semaines, ils étaient rejoints par Louis-Martin Tremblay, responsable du design, et Gérald Klill, directeur de la création. La marque était lancée. Changement de mentalité. Les gens sont habitués à payer 150 $ pour une chaussure de course et à en user 4 paires par année, dit Nick Martiri. Nous, on voulait un soulier hyper durable, capable de parcourir 1000 km. Rendu là, ce n'était plus une chaussure, c'est une pantoufle. Autrement dit, ce n'est pas une chaussure destinée à une vente en grand volume, et pourtant, on s'oppose à cette mentalité qu'il faut jeter ses chaussures 4 fois par année. C'était difficile au début. Les gens n'avaient pas l'habitude de payer 300 $ pour une chaussure. Aujourd'hui, nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs, sur les sentiers ou même en ligne, sur Reddit. Ça nous donne beaucoup de crédibilité. Pas seulement ça. Les podiums remportés par des coureurs et des coureuses qui chaussent des Norda se font de plus en plus nombreux. Pas de petite course. L'Ultra Trail Arikana à Charlevoix, qui fait 124,3 km, et le Québec Mega Trail, le plus prestigieux Ultra Trail au Canada, avec ses 135 km et son dénivelé de 6000 mètres. Il y a 4 ans, 4 coureurs en tout portaient des Norda. En 2025, on a pu repérer au moins 4 paires de Norda au pied des gagnants et des gagnantes des 2 événements. Le petit Norda a battu les grandes marques. Les commanditaires étaient un peu jaloux, dit Nick Martiri, amusé. Ça aide à bâtir la renommée de la marque, forcément, qui compte demeurer proche des coureurs et se concentrer sur des chaussures et des accessoires essentiels avant, durant et après la course. Design nature. Norda vend surtout ses produits en ligne. L'entreprise d'une 20aine d'employés n'a pas réellement pignon sur rue, mais ça pourrait changer. On pourrait avoir des boutiques d'ici quelques années, dit Nick Martiri. Né dans la pandémie, Norda a adopté avec succès les codes de distanciation d'il y a 5 ans. Tout le monde est à distance. Louis-Martin Tremblay est donc libre de concevoir les chaussures de la marque à même son propre studio. Des chaussures très techniques. Par exemple, la 005 est la chaussure de sentier la plus légère de sa catégorie à 214 grammes. Moins de poids aux pieds, moins de crampes. Sa conception est toute en subtilité. Il y a d'ailleurs quelques Easter eggs dans le design des Norda. Les cocos de Pâques sont des clins d'œil pour initiés qu'on trouve souvent dans les jeux vidéo. Sur les 5 modèles du catalogue Norda, la silhouette de l'île de Montréal est intégrée à la semelle Vibram. Sur le modèle 002, 3 lignes latérales suggèrent la forme des premières montérégiennes qu'on distingue à partir du Mont-Royal, le Mont-Saint-Bruno, le Mont-Saint-Hilaire et le Mont-Rougemont. « Ce ne sont pas les Alpes, » dit Louis-Martin Tremblay, « mais c'est notre histoire à nous. On en a un peu partout, pour les gens qui savent. » Les Norda sont très populaires en Asie, notamment en Thaïlande, où les petites montagnes du sud du Québec ont désormais une réputation démesurée compte tenu de leur taille réelle. Autre subtilité, le numéro de modèle des Norda reproduit la séquence de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8. Cette séquence est associée au nombre d'or et se retrouve fréquemment dans la nature. Par exemple, les graines de tournesol se forment au cœur de la fleur selon cette logique. De quoi occuper l'esprit du coureur qui, avec ses Norda au pied, peut s'interroger sur le sens de la vie des kilomètres durant. Pourquoi Norda? Ce fabricant québécois de chaussures connaît un succès international grandissant. Et pourtant, la marque est à peu près inconnue au Québec, même si l'entièreté de son design est associée de près au territoire de la province. C'était Norda, le roi de la montagne et montréalais, un texte d'Alain McKenna, paru le 6 avril 2026 dans la presse.
Dans le dossier, la guerre du futur fait rage maintenant du journal La Presse. Troisième texte, titré « Au-delà des robots tueurs ». Texte signé Alexandre Sirois. L'utilisation de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille fait dire à Michael C. Horowitz, qui a travaillé sur les questions d'armes liées à l'intelligence artificielle au département américain de la Défense, sous l'administration de Joe Biden, que, citation, « le futur de la guerre, c'est maintenant ». Fin de citation. C'est ce qu'il a affirmé dans un rapport publié le mois dernier par le Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale intitulé « Artificial Intelligence, the Future of War and International Politics ». En français, l'intelligence artificielle, le futur de la guerre et la politique internationale. Citation, ce que cela signifie, selon moi, c'est que les pays du monde entier, et tout particulièrement les États-Unis et la Chine, mais pas seulement eux, investissent de plus en plus dans le déploiement de systèmes utilisant l'intelligence artificielle pour gérer des éléments du champ de bataille, explique-t-il en entrevue. Fin de citation. En revanche, pour l'instant, le futur est différent de ce qu'on prédisait il y a quelques années lorsqu'on discutait des craintes liées à l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. On faisait alors référence, par-dessus tout, à l'apparition de robots tueurs sur le champ de bataille, soit ce que les militaires et les universitaires appellent, citation, des armes létales autonomes. Michael C. Horowitz, qui est aujourd'hui professeur au département de sciences politiques de l'Université de Pennsylvanie, explique que l'IA est actuellement utilisée de trois façons par les forces armées. Premièrement, pour faciliter le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Citation. Cela va des données satellites aux données de capteurs en passant par les données de sources humaines ou des informations publiquement disponibles. On agrège toutes ces informations pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde à un niveau stratégique. Fin de citation. Deuxièmement, pour faciliter la prise de décision, comme on l'expliquait précédemment, un rôle que cet expert compare à celui d'un assistant juridique qui aide un avocat à faire des recherches, des analyses et à préparer un dossier, et parallèlement au sein de systèmes d'armement qu'on qualifiera donc d'autonomes. Lorsqu'on lui demande ce qu'il juge de plus problématique quant à l'usage militaire de l'intelligence artificielle en ce moment, il dit lui aussi s'inquiéter des conséquences du biais d'automatisation. Citation, dans le monde civil, c'est ce qui peut rendre les écrasements d'avions commerciaux plus probables parce que les pilotes disent « Oh, le pilotage automatique dit que tout va bien ». Dans un contexte militaire, c'est un risque très clair, dit-il, fin de citation. Il estime cependant, pour sa part, que les effets pervers de ce biais n'ont pas été clairement démontrés lors de l'utilisation de l'IA pendant la guerre à Gaza. Il juge que c'est probablement davantage, citation, « les standards qu'Israël était prêt à accepter pour l'usage de la force », fin de citation, qui doivent être mis en cause. À ses yeux, ce sont encore des décisions humaines qui expliquent l'ampleur de la destruction là-bas. L'un des problèmes qui nous empêche de déterminer hors de tout doute ce qui s'est véritablement passé sur le champ de bataille est, bien sûr, le secret qui entoure les opérations militaires. Mais l'opacité des systèmes d'intelligence artificielle est aussi un obstacle de taille. Citation. À mesure que les systèmes d'intelligence artificielle gagnent en complexité et perdent en transparence, il devient plus difficile de reconstituer la manière dont certaines décisions de ciblage ont été prises ou de comprendre pleinement le comportement du système à l'avance. Fin de citation. Jessica Dorsey. Citation. Nous constatons déjà que les États-Unis ne savent pas comment trouver quelles frappes ont pu être menées avec l'aide de l'IA. Fin de citation, poursuit Jessica Dorsey. Ce fut flagrant dans le cas du bombardement américain d'une école primaire de la ville de Minab, en Iran, le 28 février dernier, qui a tué plus de 175 personnes, en majorité des enfants. Une enquête a rapidement été ouverte. Dans la foulée de la publication des résultats préliminaires à la mi-mars, ses responsables, cités par le New York Times, ont dit qu'il est, citation, « peu probable ». Fin de citation, que l'IA soit à la source de l'erreur. C'est à suivre. Citation, c'est pourquoi une intelligence artificielle fiable, prévisible et explicable n'est pas seulement une exigence éthique ou légale, mais aussi une nécessité opérationnelle. Les commandants ont besoin d'avoir confiance dans les outils qu'ils déploient afin d'exercer un jugement adéquat et de répondre de leurs gestes quant aux résultats. Fin de citation, ajoute Jessica Dorsey, qui est aussi membre experte de la Commission mondiale sur l'IA responsable dans le domaine militaire. Car la notion de responsabilité sur le plan juridique ne disparaîtra pas soudainement parce que l'intelligence artificielle est utilisée en temps de guerre. Fin de ce troisième texte titré « Au-delà des robots tueurs », du dossier « La guerre du futur fait rage maintenant » du journal La Presse, texte signé Alexandre Sirois et publié dans l'édition du 22 mars 2026 de ce journal.
Julia Lacroix et l'impossible retour. Un texte de Mario Girard, paru le 25 mars 2026 dans La Presse. La chose est frappante. Sur l'affiche du spectacle que Julia Lacroix devait présenter en rodage au cours des prochains mois, l'humoriste apparaît de manière floue, comme s'il voulait nous dire « Il ne tient qu'à vous d'éclaircir l'image ». L'artiste, qui a été annulé à la suite d'un reportage du Devoir en juillet 2020, faisant état d'allégations d'inconduite et d'agressions sexuelles, a voulu faire un pas de plus vers le public. Julien Lacroix savait qu'il pouvait compter sur une partie du public, mais il a sous-estimé une chose, l'assentiment du milieu. Producteurs, agents et artistes se sont vivement opposés à ce retour qu'il souhaitait faire par la grande porte avec Juste pour rire. La chose n'a pas du tout passé. Sitôt annoncée, l'entente a été annulée. Si sa tournée post-annulation, Le temps au temps, n'a pas fait de vagues, c'est que Julien Lacroix faisait ses affaires tout seul dans son coin. Salle modeste, budget limité. Néanmoins, 40 000 personnes ont assisté à ce spectacle dans lequel l'homme a pu aborder la question de son annulation et de son cheminement. Mais en raison de son association avec Juste pour rire, le milieu a eu l'occasion de signifier cette fois-ci son désaccord parfois violemment. On ne veut pas de lui dans notre industrie. On ne veut pas être associé à ce gars, de près ou de loin. Dehors, les chiens, pas de médaille. Je sais que vous vous posez la fameuse question : comment expliquer que des annulés réussissent à reprendre leur place et que d'autres se voient mettre des bâtons dans les roues ? Je ne suis pas le premier à m'interroger sur ce qui peut justifier ou non un retour dans l'arène. Est-ce que Kevin Parent a le droit de reprendre sa place ? Pourquoi Marie-Pierre Morin a-t-elle réussi son retour ? Est-ce que Yann Perrot va un jour retrouver son public? Éric Lapointe est-il vraiment sincère? Bernard Adamus doit-il se contenter de minuscules salles pour le reste de ses jours? Tout comme vous, je me pose ces questions tout en pensant aux victimes, femmes ou hommes, qui ont été agressées, humiliées et qui vivent avec ces stigmates. C'est cette difficile dualité qui nous empêche d'y voir clair, de faire la part des choses. Mais est-ce que ce brouillard nous donne le droit de refuser aux annulés une autre chance? Si oui, à quoi ça sert de se doter d'un système de réhabilitation et de réinsertion pour les délinquants et les criminels? Julien Lacroix, qui n'a fait l'objet d'aucune accusation formelle en justice, affirme qu'il a multiplié les thérapies pour régler ses problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie. Il a commencé à boire à l'âge de 12 ans, qu'il a consulté des psychologues, rencontré des féministes et engagé des dialogues réparateurs avec ses ex et ses anciens collègues. Je ne connais pas ce gars, je ne l'ai jamais rencontré, mais je reconnais son immense talent d'auteur et d'interprète. Ses spectacles ont fait un malheur et ses web-séries sont d'une drôlerie irrésistible. Le meilleur était à venir pour lui, et tout s'est écroulé. Son grand retour a-t-il été précipité? Rappelons que l'humoriste a d'abord tenté de reprendre sa carrière en 2022. Sa conjointe et leur bébé ayant reçu des menaces de mort, il a mis cela de côté. Ses retrouvailles avec la scène ont-elles souffert d'un accompagnement marketing? Je reste persuadée que s'il avait travaillé avec un producteur indépendant pour cette prochaine étape, la chose aurait mieux passé. Dans toute cette affaire, on sent chez Julien Lacroix un irrépressible besoin de retrouver l'effet grisant de la gloire et de l'amour du public. Doit-on lui en vouloir? Quand on vend 125 000 billets, comme il l'a fait avec la tournée Jusqu'ici tout va bien en 2019, on veut revivre ça. Alors, pourquoi lui et pas un autre? Ça demeure une chose difficile à expliquer. On aura beau se doter de codes d'éthique, comme l'a fait la DISC, ou comme est en train de le faire l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour, ce code sera accompagné d'un comité qui se demandera si le public et le milieu sont prêts à revoir un artiste annulé au gala Les Oliviers. Il sera quand même difficile d'empêcher un mouvement populaire de contestation. Julien Lacroix a mis un terme à sa carrière vendredi soir au vieux clocher de Magog devant un public étonné. Il en était à sa troisième représentation de rodage après celle de Gatineau et de Saint-Lazare. L'ancien golden boy de l'humour n'a plus envie de se battre. Il n'a plus la force de prouver qu'il ne correspond plus au portrait qu'on a fait de lui. Un portrait qui a d'ailleurs été revu par Isabelle Haché de La Presse et Marie-Ève Tremblay au 98.5 FM, 2 ans après la publication du reportage du Devoir. Cette démarche a offert l'occasion à certaines dénonciatrices de nuancer leurs propos. Cette histoire est désolante, car elle nous dit que nous devons accepter de composer avec un bruit assourdissant qui ne laisse aucune place à la réflexion. Est-ce vraiment ce que nous voulons? C'était Julien Lacroix et l'impossible retour, un texte de Mario Girard paru le 25 mars 2026 dans La Presse.
Peut-on prévenir ou inverser l'apparition des cheveux gris? Un texte de Simar Bajaj du New York Times paru le 10 mars 2026 dans Le Devoir. Le grisonnement, bien qu'il soit un phénomène aussi universel, demeure étrangement mystérieux. Chaque cheveu naît presque translucide et sa couleur est déterminée par la mélanine, essentiellement une poussière de pigments. Si elle est densément concentrée, les cheveux seront foncés. Dans le cas contraire, ils paraissent blonds. avec le temps, les cellules productrices de pigments présentes dans chaque follicule pileux ont tendance à ralentir ou à s'éteindre, rendant les cheveux gris, explique Desmond Tobin, directeur du Charles Institute of Dermatology à l'University College Dublin, en Irlande. Ces cheveux ont tendance à être plus rigides et plus difficiles à coiffer, et poussent 10% plus vite que les cheveux pigmentés. Certaines personnes les acceptent comme une composante du vieillissement, d'autres les voient comme une nuisance à teindre, à arracher ou à dissimuler. Mais les scientifiques ne savent pas encore précisément ce qui déclenche le grisonnement ni dans quelle mesure nous pouvons l'influencer. Certaines personnes commencent à grisonner dans la vingtaine, tandis que d'autres conservent leur couleur naturelle jusqu'à leurs 80 ans. Bien que le processus semble en grande partie irréversible, les chercheurs constatent que la couleur peut parfois revenir, par plaques et sous forme de racines plus foncées. Pour l'heure, il n'existe pas de solution miracle pour prévenir ou pour inverser le grisonnement, mais des experts s'efforcent d'éclaircir la question et de mettre au point des traitements. Ce que les scientifiques savent jusqu'à présent. Nos cheveux ne grisonnent pas tous en même temps, ce qui explique pourquoi on peut remarquer quelques mèches argentées isolées avant d'entrer dans une phase poivre et sel. Certains cheveux peuvent même s'éclaircir, puis se foncer à nouveau. Chaque follicule est indépendant. Il contient ses propres cellules productrices de pigments, appelées mélanocytes, ainsi qu'un réservoir de cellules souches de remplacement. En vieillissant, ces cellules accumulent naturellement des dommages causés par exemple par le stress ou l'usure cellulaire. Le grisonnement débute généralement lorsque les mélanocytes d'un follicule particulier sont compromis, mais il devient permanent lorsque le réservoir de cellules souches est épuisé, explique Emi Nishimura, professeur spécialisé dans le vieillissement et la régénération à l'Université de Tokyo. Des recherches donnent à penser que si le premier phénomène survient sans le second, le grisonnement peut être inversé. Dans une petite étude publiée en 2021, des scientifiques ont collecté des cheveux chez des personnes qui avaient commencé à grisonner et ont observé des bandes distinctes, foncées et blanches. Comme un cheveu pousse environ 1 cm par mois, ces bandes offrent une ligne du temps. Les chercheurs ont donc demandé aux participants de noter leurs expériences stressantes au cours de l'année écoulée. Les périodes de stress plus élevées correspondaient aux bandes plus claires, tandis que les périodes de moindre stress coïncidaient avec des bandes où la couleur était revenue. Autrement dit, la réduction du niveau de stress semblait inverser ou ralentir le grisonnement. Certaines personnes aux cheveux gris ont également connu une repigmentation spontanée par plaques après avoir reçu certains types de chimiothérapie, de radiothérapie ou d'immunothérapie. Les experts soupçonnent que, dans ces cas rares, les traitements contre le cancer pourraient inciter des cellules souches dormantes à reconstruire des mélanocytes fonctionnels. Ces recherches semblent indiquer que le grisonnement n'est pas un processus entièrement linéaire et qu'il existe une fenêtre d'opportunité durant laquelle la perte de pigments peut être inversée, selon le docteur Ralph Paus, dermatologue à l'Université de Miami. La durée pendant laquelle cette fenêtre reste ouverte et ce qui pourrait réactiver les cellules souches de façon sécuritaire demeure inconnue. Que peut-on faire contre les cheveux gris? Le grisonnement est en grande partie génétique, rappelle la docteure Jessica Hsu, dermatologue au UC Irvine Health en Californie, si bien que vos parents et grands-parents constituent le meilleur indicateur pour le vôtre. Les chercheurs ont également établi que le grisonnement débute généralement au milieu de la trentaine chez les personnes blanches, à la fin de la trentaine chez les personnes asiatiques et au milieu de la quarantaine chez les personnes noires. le mode de vie peut également avoir une incidence sur le grisonnement. Les données les plus probantes plaident en faveur de l'abandon du tabac et de la réduction du stress. Dormir suffisamment et adopter une alimentation saine, riche en antioxydants, pourrait également limiter les dommages causés aux cellules pigmentaires, souligne la docteure Chiu, bien que les preuves soient plus indirectes à cet égard. Un grisonnement prématuré a également été associé à de faibles niveaux de fer et de vitamine B12, mais aux États-Unis, les carences suffisamment graves pour perturber la pigmentation des cheveux sont rares, précise le docteur Tobin, et rien ne prouve que des suppléments aident à lutter contre le grisonnement. Méfiez-vous des suppléments anti-gris en général, conseille la docteur Chiu, car ils sont souvent vendus sur la base de promesses plutôt que de preuves. Même s'ils contiennent un ingrédient potentiellement utile, rien ne démontre que la prise d'une pilule ou l'application d'une crème permet d'atteindre les cellules pigmentaires situées au plus profond des follicules pileux. Bien qu'il n'existe pas de traitement médical contre les cheveux gris, il est conseillé de consulter un médecin en cas de grisonnement soudain ou précoce, car une petite proportion des cas est liée à des médicaments sur ordonnance ou à des maladies et pourrait être réversible. Certains anticonvulsivants, antipaludéens, rétinoïdes oraux et médicaments contre la spasticité musculaire ont notamment été associés au grisonnement. De nombreux médicaments contre le cancer induisent également une perte de pigments, malgré les cas rares de repigmentation mentionnés plus haut. Les médecins peuvent aussi distinguer le grisonnement lié à l'âge des affections qui en sont la cause. Les troubles thyroïdiens et autres déséquilibres hormonaux ont été associés à un grisonnement précoce, tout comme les maladies auto-immunes qui ciblent les follicules pileux, comme le vitiligo et la pelade. Un traitement peut limiter la perte de pigments supplémentaires et permettre parfois un retour de la couleur. Pour la plupart des gens, il n'y a pas grand-chose à faire pour prévenir les cheveux gris, mais une accumulation de petits changements peut aider. Ce n'est rien d'extraordinaire, c'est simplement d'adopter un mode de vie sain, résume la docteure Chiu. C'était « Peut-on prévenir ou inverser l'apparition des cheveux gris? » Un texte de Simar Bajaj du New York Times paru le 10 mars 2026 dans Le Devoir.